Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et sur internet rdwa.fr. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment gouverner sans chef et comment inclure la vie de tous ceux qui le souhaitent dans une gouvernance, dans une organisation. Et pour répondre à cette question, je reçois deux personnes de la corderie du DIWA, car la corderie est passée d'une gouvernance classique basée sur président, trésorier, etc., à une gouvernance horizontale, participative, il y a quelques années. Et donc, pour nous expliquer tout ça, je reçois Joël et Martine de la corderie du DIWA. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter en quelques mots.
Donc, je m'appelle Martine. Moi, je suis à la corderie depuis le démarrage. J'étais dans le petit groupe de départ. Et maintenant, j'ai été au CA pendant quelques temps et au bureau. Et maintenant qu'on fonctionne différemment, je suis au cercle décisionnaire et dans un groupe de travail que je représente au cercle décisionnaire.
Joël, donc je fais partie de ce petit groupe qui a démarré cette aventure de la corderie dans le pays d'Iwa. Et donc j'ai suivi toute l'évolution aussi de la gouvernance. Et je fais partie actuellement d'un des groupes du cercle décisionnaire qui s'appelle le Conseil des Sages.
Et vous avez voulu donc changer la gouvernance. Alors pourquoi vous avez voulu changer ?
D'abord, je dirais que ce n'est pas une position idéologique. Nous n'avons pas voulu changer la gouvernance. On a été obligés de changer parce qu'à un moment donné, dans notre histoire associative, il n'y avait plus personne qui voulait se présenter comme coprésident. Nous avions déjà des coprésidents, coprésidentes, jusqu'à 4 coprésidents. Et lors d'une assemblée générale en 2015 ou 16,
15
en 2015, il s'est trouvé qu'il n'y avait personne qui était volontaire pour ce poste-là. Donc on s'est vraiment posé des questions sur notre modèle de gouvernance, en disant qu'il y a quelque chose qui coince. Et effectivement, la corderie, c'est un système de réseau qui est complètement horizontal, puisque la base, c'est une heure égale une heure. Il n'y a aucune hiérarchie. Et notre modèle de gouvernance classique associatif, c'était très pyramidal. Donc, coprésidence, bureau, CA, et puis ensuite les membres, tout en bas. Et on s'est dit que ce modèle-là ne nous correspondait pas du tout. Voilà pourquoi on a essayé de chercher un peu d'autres choses possibles et on est arrivé à la sociocratie qui proposait un modèle de gouvernance horizontale.
Donc en 2016, on a eu la chance d'avoir un accordeur qui était formé à la sociocratie et qui nous a fait deux séances d'explication très fine de ce qu'était la sociocratie et de ce que ça pouvait nous apporter, et qui nous a mis sur les rails. Et on a mis une année entière, donc on a découvert ces nouveaux outils de fonctionnement, et on a mis une année entière en nous réunissant une fois par mois pour nous approprier tous ces outils qui étaient nouveaux. C'est nouveau dans le sens où on est complètement responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et il y a plus de chef, quoi. Vraiment, le titre que tu as trouvé à l'émission, je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment ça. Il y a plus de chef. Chacun est le chef de soi et doit tenir compte des autres.
Et la sociocratie, ça fonctionne comment alors ?
C'est quelque chose qui nous vient de très loin, puisque les Grecs avaient inventé ça dans leur gestion politique, où en gros, chaque citoyen avait le même droit à la parole. hein, dans leurs assemblées, dans leurs agora. C'est un modèle politique qui a duré.
Sauf les femmes et les esclaves.
Évidemment, à cette époque-là, les citoyens, c'était les hommes. Bon. Depuis, on a un peu évolué, heureusement. Et aujourd'hui, donc, on s'est dit que ce serait intéressant de reprendre ce modèle et de l'adapter avec tous les outils modernes qu'on connaît, que nous ont fait découvrir un peu la psychologie, les histoires de comportement, les histoires de dynamique de groupe. Et donc, il y a un groupe de gens qui s'est penché là-dessus. Et sur l'université de Grenoble, donc, qui s'appelle l'université du nous, N-O-U-S, et qui ont élaboré un ensemble d'outils qui permettent de vivre cela de manière, je dirais, relativement harmonieuse et paisible, et d'éviter, au cours de rencontres ou de prises de décision, d'éviter les fameuses prises de pouvoir ou les tentations de sabotage parce que la décision prise, ça n'a pas été la mienne, etc. Voilà. Mmh. Et ce sont ces outils-là qu'on a mis un an à s'approprier. Et ce n'est pas évident quand on est habitué au fonctionnement classique associatif, au CA classique, où effectivement, il faut arriver à faire passer son idée, où les décisions, des fois, ne sont pas prises parce qu'on n'arrive pas à un accord, où il y a des votes à 49-51, donc il y a la moitié qui ne sont pas contents, forcément. Mmh. Voilà, ça, c'est tout à fait un autre modèle de gestion. Et je dois dire que c'est assez difficile, enfin pour moi, c'était assez difficile d'aller à l'encontre de tout ce que j'ai vécu depuis des dizaines d'années, quoi, dans le monde associatif. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière.
Ben, moi, je peux te dire la même chose. J'ai eu aussi des difficultés parce que au démarrage de l'association, en fait, les personnes qui étaient là, c'était les vieux de la vie associative qui se retrouvaient et qui avaient envie de faire quelque chose ensemble. Et il a fallu qu'on se rééduque, les uns les autres. Et il y a quelques règles de fonctionnement importantes qu'il faut suivre et qui ont l'air d'être assez simples comme ça quand on en parle. Par exemple, quand on parle, on fait des tours de cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ping-pong entre les personnes. Chacun, à tour de rôle, on donne notre avis, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut. De temps en temps, cette parole, on la met au centre et on la travaille ensemble. On n'est pas « je veux absolument convaincre l'autre que j'ai raison », etc.
Quand tu dis « on la travaille ensemble », tu veux dire quoi ?
Eh ben, c'est-à-dire que, par exemple, on fait des tours de cercle de parole. Ensuite, de là émerge une idée, un acte, une action à faire, des choses comme ça. Et ça, on peut dire que ça, on le met au centre et que tous, on s'y met ensemble. La parole, l'action ne nous appartient plus. Ce n'est pas celui qui a dit « je veux faire telle chose » ou « il faut faire telle chose » qui va peaufiner tout seul dans son coin. C'est tous ensemble. Quand on met quelque chose au centre, ça ne nous appartient plus individuellement. Ça devient collectif. C'est une idée qui devient collective, c'est une action qui va devenir collective. Et ce sont les personnes qui vont mener cette action, qui vont la travailler ensemble.
Par exemple, si un débat dans une association, c'est « Ah, il faut qu'on déménage, on change de local ». Donc chacun, à tour de rôle, on fait le tour du cercle petit à petit dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. Ouais. Quand c'est fini, ensuite, il émerge, par exemple, une idée clé qui est si on allait dans tel local à tel endroit. Et ensuite, chacun, à tour de rôle, peut prendre la parole, dire les avantages, les inconvénients de cette prise de ce local, par exemple. C'est comme ça ?
Oui, et puis, à tour de rôle, on prend la parole. Moi, ça peut ça me donne des idées différentes. Ça peut enrichir ma réflexion. Et ça me permet aussi quelquefois de comprendre ce que l'autre dit avec lequel j'étais pas en accord au début parce que je comprenais pas pourquoi. Et voilà. Et c'est ça qu'on construit ensemble. En fait, on fait un travail de bâtisseur. Mmh. On bâtit ensemble quelque chose. Et du coup, comme on le fait ensemble, après, ça ne nous appartient plus. On n'a plus besoin de se bagarrer pour un truc qui ne nous appartient plus, puisque c'est collectif.
C'est ce qu'on appelle en sociocratie la gestion par consentement. Et il y a une énorme différence entre la gestion par consensus, où une décision doit être prise par tout le monde, ou tout le monde doit, ou du moins la majorité doit être d'accord. Donc ça, c'est le consensus. On cherche l'accord de tout le monde, mais ça, c'est rarement efficace, puisqu'il y a toujours quelques personnes qui ne sont pas d'accord. Le consentement, c'est complètement différent. Le consentement, c'est à partir du moment où une proposition est posée au milieu du cercle, ou une idée ou une proposition, à partir du moment où, dans le tour de cercle, il n'y a aucune objection, objection au sens, encore une fois, sociocratique du mot, c'est-à-dire que c'est... L'objection, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose, il n'y a que deux possibilités d'objecter. C'est soit je pense que la proposition qui a été posée au milieu du cercle met en danger la survie même du groupe, de l'association, de la structure. Et à ce moment-là, je ne peux pas accepter. Il faut absolument qu'on revienne là-dessus. Ou la deuxième objection, c'est personnellement, ça met en danger mon éthique personnelle. Je ne peux pas l'accepter non plus. Voilà, c'est ça l'objection. C'est pas juste dire, ouais, j'ai une meilleure idée, ou je suis pas d'accord, ou je penserais autrement. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'objection dans ce sens-là, de tout le groupe, eh bien la proposition qui est posée au milieu du cercle est validée. Et ça, c'est extrêmement efficace. Parce qu'on ne cherche pas à avoir le consensus de tout le monde. On n'y arrivera jamais, de toute façon. Par contre, à partir du moment où tout le monde... accepte cette proposition, consent, eh bien, le groupe la valide et s'en empare. Alors bon, je vais un peu vite parce qu'il y a plein d'autres tours de groupe qui permettent d'amender la proposition, de la peaufiner, de la repréciser. Mais le principe de base, c'est vraiment la gestion par consentement et non pas par consensus.
Il y a une autre règle de fonctionnement qui est importante à mes yeux, c'est... ce qui concerne le double lien, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul, dans quelque instance que ce soit, on n'est jamais seul à prendre une décision ou même à faire quelque chose. Ça n'existe plus. On ne se retrouve jamais tout seul à faire un truc qu'on n'a pas très envie ou je ne sais pas quoi, comme on faisait précédemment, parce qu'on se sentait obligé. Mais là, on est toujours au minimum à deux. Et on sépare bien les fonctions de ce que j'apporte et de ce que je reçois. En fait, c'est important de différencier les deux. Je voudrais juste rajouter qu'une autre chose importante de fonctionnement, c'est toujours la prépondérance de l'intérêt général et de l'intérêt collectif. C'est jamais on prend cette décision parce que ça va arranger une personne ou ça va arranger un groupe voilà, c'est toujours l'entièreté de l'association et des adhérents qui est prise en compte quand on travaille ensemble.
Alors puisqu'on est dans les outils, il y a quand même deux outils principaux, la gestion par consentement qu'on a évoqué, et il y a un deuxième outil aussi qui est extrêmement important en sociocratie, c'est l'élection sans candidat. À partir du moment où on cherche quelqu'un pour un poste, pour remplir une tâche, pour effectuer une mission, eh bien, on n'attend pas qu'il y ait une personne qui se propose en disant « c'est moi le meilleur, c'est moi qui veux faire ça ». Non, l'élection sans candidat, c'est le groupe lui-même qui commence par définir quelles vont être les compétences nécessaires, quel va être en gros le profil de poste de la personne la meilleure pour remplir ce rôle. Et une fois que le groupe s'est mis d'accord sur ces points-là, c'est... Des personnes, chacun à son tour, peut proposer quelqu'un du groupe pour remplir cette fonction. C'est ce qu'on appelle l'élection sans candidat. Personne ne se propose, c'est le groupe qui va demander à quelqu'un de se proposer parce que le groupe pense que c'est cette personne-là qui est la meilleure à ce moment-là pour ce poste précis.
Et ensuite, la personne qui est élue peut refuser. Dans ce cas, c'est le numéro 2 sur la liste à qui on propose,
bien sûr,
etc.
Il y a toujours cette liberté, effectivement, d'accepter ou de refuser, évidemment. L'avantage, c'est qu'on est très très loin là des histoires d'ego, des histoires d'ego, de pouvoir et de. Dans tous les groupes, il y a des gens qui ont plus de facilité de parole ou qui ont plus d'emprise ou plus de charisme. Bon, et puis il y a des gens qu'on n'entend jamais. Ça arrive souvent dans des rencontres, dans des CA, dans des réunions. Là, tout le monde s'exprime à un moment donné. Chacun à son tour pose une parole, propose quelqu'un ou dit pourquoi il pense que cette personne-là ne serait pas la meilleure. Personne à ce poste-là. Il y a aussi cette liberté-là. Et c'est pareil, quand le groupe a fait le tour et qu'il y a le consentement sur une personne, eh bien, c'est validé.
Et par la suite, il y a consentement, pas d'objection, etc.
Voilà, quand il n'y a pas d'objection, parce que bon, c'est toujours pareil. Hein, on a toujours ce temps de dire, ben non, là, je pense que ça peut être une erreur. Voilà. Et souvent, les objections, donc dans sociocratie, c'est toujours quelque chose de positif. C'est-à-dire que la proposition, tout le monde n'a peut-être pas vu tous les aspects de cette proposition. Moi, je pense qu'il y a un aspect là qu'il faut travailler ensemble. Et donc, il y a une reformulation, souvent, jusqu'au moment où tout le groupe est de nouveau dans le consentement, et là, c'est validé. Voilà, ce sont un peu les grandes lignes, hein, mais après, il y a une méthode très, très, très claire, très posée, et il y a souvent une animation aussi de la rencontre qui est faite par un animateur qui est extérieur aux décisions. C'est-à-dire que le rôle principal de l'animateur, c'est de tenir ce cadre, de veiller à ce que tout le monde s'exprime, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'histoire de pouvoir ou d'ego qui arrive à surgir. Et surtout de veiller à ce que les décisions soient prises dans ce modèle sociocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a, quand, par exemple, quelqu'un pose une objection, l'animateur peut très bien dire « Non, ce que tu poses là, ce n'est pas une objection. C'est juste un ressentiment. Donc, ce n'est pas valable. » Voilà. Et ça, c'est très important, surtout au départ. Hein. Pour nous, ça a été vital d'avoir ce regard à la fois extérieur. L'animateur ne prend pas part aux décisions. Il tient juste le cadre. Et donc, à chacune de nos rencontres, la première chose qu'on fait, c'est que nous, on nomme un animateur. Et concrètement, on a aussi d'autres partages des tâches. Systématiquement, on a un gardien du temps qui veille à ce que nos rencontres qui sont prévues de, par exemple, 20h30 à 22h, commencent à 20h30 et s'arrêtent à 22h. Donc c'est fini les CA qui commencent en soirée, qui finissent à 1h du matin et où on n'a pas traité la moitié des affaires. Ça, c'est aussi un très grand plaisir de se retrouver dans nos cercles décisionnaires parce qu'on sait que on va finir à l'heure. Et c'est très agréable. Et puis, l'autre rôle de l'animateur, c'est justement de répartir les différentes tâches. Il y a quelqu'un qui va s'occuper des comptes rendus, quelqu'un qui va être gardien du temps, gardien de l'ambiance. Voilà, tous ces petits outils. Voilà.
En fait, au début, on a dit que ça a été difficile pour nous de rentrer dans ce nouveau mode de fonctionnement. Là, ça a l'air un peu clair, ce qu'on dit, je pense, j'espère. Que ça a l'air un peu clair ce qu'on dit en disant il y a des règles de fonctionnement, on les suit et tout se passe bien. Mais là où ça se passe moins bien, c'est ce qu'on a dans notre tête, quoi, au début. Et le premier outil qu'on s'est construit quand on a démarré, en fait, on a élaboré ensemble une charte relationnelle. Et cette charte relationnelle, elle est hyper importante, elle est tout le temps sur nous. Et à chaque début de réunion, quelle que soit la réunion, on commence par lire ensemble cette charte relationnelle qu'on s'est donnée, que tout le monde a acceptée, qu'on peut retravailler. Elle n'est pas immuable, hein, on peut la retravailler. S'il y a des choses qui nous semblent, à certains moments, un peu ne collant plus à notre réalité, ou, voilà, on peut la retravailler, mais ça sera toujours retravaillé ensemble. Et c'est en fait, cette charte relationnelle, elle nous donne nos pistes de travail, de comment on se comporte, de comportement avec les autres. Par exemple...
Tu peux la lire si tu veux, la charte relationnelle, ou si on l'a sous les yeux.
Oui, je peux lire quelques exemples. Donc, la première chose, c'est les personnes présentes sont les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes ce jour-là, elles ont le droit à la parole, ont le droit de dire ce qu'elles pensent, ont le droit d'apporter des idées aux autres, et elles ont le droit, in fine, de prendre des décisions avec tout le monde. Même si elles n'ont pas été élues, parce qu'on a quand même, on a parlé d'élections sans candidat, on a quand même des instances qui sont représentées, mais même si on ne fait pas partie de cette instance, à partir du moment où on est présent, dans un groupe qui travaille sur un sujet, on a tout le monde a les mêmes prérogatives. Voilà. Il y a aussi des choses qui sont un peu plus classiques, comme ne pas se non-dévalorisation de soi et des autres. Prendre en compte des inégalités de situation. On n'a pas tous la même Il y a des choses, des fois, on ne les comprend pas quand les autres parlent parce qu'elles ont un jargon professionnel, ils ont un jargon qu'on ne comprend pas toujours. On n'est pas obligé de tout savoir et de tout comprendre. Et on peut tout à fait... il faut faire attention à ces inégalités et faire attention à ce que chacun puisse participer. On a toujours le droit de penser ce qu'on veut et de l'exprimer. Et ce n'est pas parce qu'on exprime quelque chose avec lequel les autres ne sont pas d'accord que notre expression, même si je suis toute seule à exprimer cette chose-là est aussi valable qu'une autre idée qui va être partagée par beaucoup plus de personnes. Quand j'accepte le point de vue de l'autre, ça fait référence au moment où on peut changer d'avis, parce qu'on a entendu les autres apporter des éléments nouveaux ou des éléments auxquels on n'avait pas pensé. Et ça veut dire, je peux changer ma vie, donc je peux changer d'avis. Donc, si j'accepte le point de vue de l'autre, ça ne veut pas dire que je renie ma propre idée, mais je peux, à un moment, changer d'avis momentanément pour cette idée-là, pour cette action-là, parce que le contexte fait que c'est plus acceptable que ce que j'avais pensé au départ. Voilà, il y a des choses comme ça, ne pas juger les autres, être bienveillant, enfin des choses comme ça, qui sont nos modes de fonctionnement auxquels on tient vraiment beaucoup maintenant. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer et comment on pourrait ne plus lire cette charte relationnelle en début de réunion.
Alors, on s'est donné cette charte et on s'est donné aussi les moyens de fonctionner avec. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans chaque réunion, en début de réunion, donc j'ai parlé d'un gardien du temps qui veille au respect du temps qui a été décidé en début de réunion sur l'ordre du jour. Donc chaque point a été validé ensemble et chaque point a un certain temps de traitement et on essaye de s'y tenir justement pour pouvoir finir dans les temps. Et donc s'il y a un gardien du temps, son rôle principal pendant toute la rencontre, ça va être de veiller à ce qu'on ne se dépasse pas trop. Et ensuite, il y a aussi un gardien de l'ambiance. Et ce gardien de l'ambiance, son rôle est très important puisqu'il veille justement à ce que la charte relationnelle soit effectivement vécue pendant cette rencontre. Donc il se peut qu'il y ait des moments où il y a des décisions qui sont un peu plus difficiles, où des gens ont tendance à peut-être hausser le ton ou à ne pas s'écouter. Et à ce moment-là, son rôle, là, il est très clair. Ben, il stoppe tout et puis on revient sur le cœur de la décision. Voilà.
Et en termes de groupe de travail, donc il y a un cercle décisionnaire où vous prenez toutes les décisions, il y a des groupes de travail qui gravitent autour. Comment ça se passe ?
Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes de travail. Et ensuite, on s'est dit comment est-ce qu'on va créer un organe de gouvernance qui prenne en compte la réalité de la corderie. Je pense que le travail qu'on a fait pendant plus d'un an, hein, puisque ça a duré presque un an et demi, ça a été d'abord effectivement de comprendre un peu cette sociocratie, comment ça fonctionne, ces outils-là. Et puis ensuite, ça a été de dire surtout comment est-ce que nous, à Corderie du Pays d'Ivoire, on peut créer un schéma qui corresponde à ce qu'on vit. Donc à cette structure complètement horizontale en réseau, à ces échanges et tout ça. Et on s'est dit, ben, il y a déjà dans notre accorderie des groupes qui fonctionnent, des groupes de travail. Il y avait déjà un groupe finance qui gérait toute la partie finance de l'association. Il y avait déjà un groupe employeur puisqu'on a une salariée. Il y avait déjà un groupe ADI, un groupe à Saillant, un groupe à Luc, hein, d'accordeurs. Et puis on s'est dit, ben, ces groupes-là, ils existent, ils fonctionnent. Et donc le cercle décisionnaire, ça doit être la représentation de tout ça, de tous ces groupes. Et pour cela, il faut qu'il y ait un membre de chaque groupe qui soit présent au cercle décisionnaire. Mais le cercle décisionnaire a aussi, c'est le double lien dont parlait Martine tout à l'heure, a aussi un rôle envers les groupes. C'est-à-dire que le cercle décisionnaire est composé de ce qui se passe dans les groupes qui viennent à l'organe principal, qui est le cercle décisionnaire. Mais le cercle décisionnaire est aussi un retour dans les groupes. Donc il y a une deuxième personne qui a été élue sans candidat, bien sûr, et qui elle, son travail principal, c'est de porter dans les groupes les décisions du cercle décisionnaire. Donc en gros, concrètement, on a à peu près 7 groupes hein, différents. Et dans chaque groupe, il y a 2 personnes, une qui est choisie par le groupe et une qui est choisie par le servicionnaire. Donc 14 personnes qui sont aux rencontres du cercle décisionnaire. Et on a en plus, depuis quelques temps, on a rajouté quelques groupes. On s'est dit que ce serait intéressant, dans nos plus de 700 accordeurs aujourd'hui, il y en a qu'on ne voit pas beaucoup, on ne sait pas trop comment où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont, comment ils appréhendent l'accorderie, etc. On s'est dit que ce serait intéressant de les impliquer aussi dans l'organe de gouvernance. Et donc, à chaque rencontre du cercle décisionnaire, on tire au sort 2 accordeurs. Et on les invite nominalement à venir participer au cercle décisionnaire, donc à participer à toutes les décisions de gouvernance de l'accorderie. Et ça a été très important parce que ça évite d'une part de ronronner en petits groupes, hein, toujours les mêmes qui prennent les décisions, puisqu'à chaque fois, il y a des nouveaux accordeurs. Et ça a été très important aussi pour les accordeurs qui découvrent cette manière de gérer leur propre accorderie.
Donc chaque personne tirée au sort qui souhaite venir a une voix pour voter pendant l'édition du cercle décisionnaire comme n'importe quelle autre personne du cercle décisionnaire.
Oui, enfin, oui. C'est pas formellement, on ne vote pas.
Oui, oui, oui. Enfin,
on a une décision par consentement.
Oui, oui, oui.
Mais chaque personne du groupe, les personnes présentes sont les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Chaque personne du groupe est au même niveau de décision, y compris l'accordeur qui vient pour la première fois.
Oui, ou un accordeur volontaire qui a envie de venir au cercle décisionnaire peut venir, n'importe qui parmi les 700 peut venir, et puis sa voix comptera tout autant que celle d'un accordeur qui est là depuis 10 ans, et c'est la même chose.
C'est ça.
Exactement.
Et cette transition, notamment au niveau...
Il y a peut-être le conseil des sages dont il faut parler.
Oui, ah oui, c'est vrai, il y a aussi on a rajouté aussi un groupe au fur et à mesure qu'on avançait. On s'est dit que parmi les anciens, enfin les anciens entre guillemets, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient au départ de la création de l'accorderie, qui faisaient partie des premiers CA, qui étaient engagés et tout ça, qui avaient envie de prendre un peu du recul par rapport à ça, parce que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient engagés, on s'est dit que ce serait bien qu'ils aient quand même un rôle un peu particulier. Et je dirais un rôle un peu de veille éthique, de veiller à ce que les décisions prises par l'accorderie, par le cercle décisionnaire, soient toujours en accord avec le cœur de notre projet, c'est-à-dire création de liens sociaux, lutte contre les précarités, etc. Donc on a notre charte, qui est veiller à ce que les décisions prises soient toujours en accord avec la charte. Ça, c'est une des fonctions principales de ce groupe, donc qu'on a appelé Conseil des Sages. Et la deuxième fonction du Conseil des Sages, c'est évident que dans nos 700 accordeurs, il se peut très bien qu'au cours des échanges ou au cours de rencontres entre deux personnes, qu'il y ait des choses qui ne soient pas très fluides, qu'il y ait des petits problèmes, des moments où ça coince. Et n'importe quel accordeur peut se saisir du Conseil des Sages en disant « moi j'ai un problème là ». J'ai un problème parce qu'il y a eu tel échange, ça n'a pas été comme je voulais, ou avec telle personne, j'ai un problème relationnel. Et le Conseil des Sages prend le temps de réunir les personnes, de proposer une solution, une demi-médiation, ou de proposer une décision au cercle décisionnaire, qui de toute façon est toujours souverain pour prendre des décisions. Voilà, les deux rôles essentiels du Conseil des Sages.
Il y a d'autres petits rôles, mais qui sont aussi importants, il me semble, c'est... Le côté de garant de l'histoire, le Conseil des Sages, il est là pour ne pas perdre l'histoire de l'association, parce qu'on sait bien que dans les associations, les gens, ils bougent, et comme partout, et que on perd les contacts avec des gens intéressants qui nous ont donné des coups de main à certains moments. On perd l'histoire de notre association, des moments difficiles qu'on a vécu, des moments de joie qu'on a vécu. Et ça, le Conseil des Sages est gardien de ça. Et on a la chance d'avoir un accordeur qui fait des BD. Et en fait, il nous a mis l'histoire, on a écrit l'histoire. Et cette histoire a été mise en bande dessinée, a été conçue en bande dessinée. Et on peut la feuilleter, la lire à l'accorderie. Je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Ah oui, et puis c'est le rôle de la formation aussi. Le Conseil des sages, il est là aussi pour être garant qu'on laisse personne de côté et que lorsque il y a des personnes qui veulent prendre des responsabilités à l'intérieur du fonctionnement de la corderie, que ces personnes-là aient tous les éléments en main pour le faire le mieux possible, pour tenir son rôle le mieux possible. Par exemple, les gens qui font l'accueil à la corderie, on n'a pas parlé de la salariée aussi. Les gens qui font l'accueil à la corderie, en fait, ils sont réunis régulièrement par des personnes du Conseil des sages et on travaille ensemble sur des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, des choses comme ça. Là aussi, il y a des membres du Conseil des sages qui bientôt vont venir parler de la gouvernance à ceux qui, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, à ceux qui auraient envie d'en savoir plus ou de poser des questions, voilà.
Alors, et si on continue un peu dans l'histoire hein, de cette transition d'un CA classique à un cercle décisionnaire, donc au bout de cette année et demie passée à se réunir tous les mois pour travailler sur ces outils, pour s'entraîner, on a pris la décision de fonctionner comme ça pendant un an. On s'est donné un an d'essai. C'est vrai qu'à la corderie, on était déjà adepte du processus essai-erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de position idéologique, on essaye. Et si ça marche, ben c'est très bien, on continue. Et si ça ne marche pas, ben on arrête et puis on essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, c'est une position très pragmatique. Et on s'est dit, on va essayer pendant un an. On va essayer de fonctionner comme ça, avec cet organe de décision qui ne sera plus un CA, mais un cercle décisionnaire, donc où il y a des représentants de chaque groupe. Et au bout d'un an, si ça marche, on valide, lors d'une assemblée générale extraordinaire, on valide cette nouvelle gouvernance et on règle les problèmes juridiques, administratifs et tout ça qui sont liés derrière. Déclaration en préfecture et tout ça. Bon, au bout d'un an, personne ne voulait revenir en arrière. Vraiment. Même si ça n'a pas été évident pour tout le monde au départ, c'était tellement agréable d'avoir un cercle décisionnaire où tout le monde sortait à 20h30 avec la banane, vraiment avec le sourire, parce qu'ils ont pu dire tout ce qu'ils avaient à dire. La réunion était efficace, les décisions ont été prises.
On buvait un coup et on mangeait ensemble. Hein.
Ça aide aussi, mais il ne faut pas oublier la convivialité. Hein. C'est pas que prise de tête.
Mais ça, ce n'était pas lié à la sociocratie.
Non, ça, c'était déjà avant. Mais avant, on buvait un coup, des fois, vers minuit, 1h du matin. C'était un peu tard, tandis que là, c'est quand même plus agréable. Au bout d'un an de cet essai, on a fait une assemblée générale extraordinaire avec tous les accordeurs et on a validé le fait qu'on allait officiellement passer en mode sociocratique avec un schéma de cercle décisionnaire. Et on a déposé les statuts à la préfecture. Et c'est vrai que ce n'était pas évident parce que d'avoir un statut avec non plus un président, mais 16 personnes qui sont au même niveau du groupe décisionnaire, qui prennent des décisions et qui en plus sont amenées pour certaines à changer assez fréquemment, puisque les accordeurs tirés au sort, ils sont là à une rencontre et pas forcément à la suivante. Eh bien, étonnamment, ça n'a pas posé de problème. On a reçu assez rapidement l'accord de la préfecture. Parce que la loi 1905 sur les associations est quand même très minimaliste. Hein. Elle dit qu'il faut être au moins 2 personnes pour créer une association. Et puis qu'il faut au moins une personne qui soit repérée comme responsable. Voilà. Donc après, on a pu déposer notre statut tel qu'on le vit actuellement, c'est-à-dire le cercle décisionnaire avec tous les cercles autour. Et depuis 2 ans et demi maintenant, on fonctionne comme ça et ça se passe quand même très bien.
Et les 16 noms déposés, c'était les noms des responsables de chaque groupe, les doubles liens, c'est ça ?
Les doubles liens de l'époque. Alors, en plus, en sociocratie, un engagement ou une élection sans candidat un engagement sur une action n'est jamais ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est toujours un engagement qui a une durée dans le temps. Et les personnes qui s'engagent dans le cercle décisionnaire s'engagent pour un an. Ça peut être dans nos statuts, ça peut être éventuellement reconductible pendant un an, mais pas plus. Et de toute façon, chaque année, tous les membres du cercle décisionnaire sont en gros démissionnaires et le cercle décisionnaire refait des élections sans candidat. Voilà, ça permet d'une part aux gens de s'engager sans se dire « je vais être coincé pendant 5, 6, 7 ans dans ce rôle-là ». Et ça permet surtout qu'il y ait une rotation aussi et un partage des engagements de gestion. Voilà.
Je crois qu'il faut qu'on parle aussi du rôle de notre salarié et des groupes. On a une salariée qui est à temps partiel. Elle est là de lundi au mercredi. Et ses fonctions, c'est surtout pas de faire à notre place, c'est de nous aider à faire. C'est-à-dire que toutes les choses qui ne seront pas faites par des accordeurs, tout ce qu'on a décidé mais qu'on n'a pas pu faire, ça ne se fera pas parce que c'est pas la salariée qui va faire le travail à notre place. Donc c'est quelque chose qui est... On a vraiment la chance d'avoir une super salariée en ce moment. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour le fonctionnement des petits groupes. Quand on va dans un petit groupe et qu'on se met à prendre des responsabilités, à faire des propositions... On sait qu'on a quelqu'un derrière qui va pouvoir nous aider. Si je prends une responsabilité, je ne suis pas obligée de connaître à 100% les tenants et les aboutissants de cette responsabilité, puisque je sais que notre salarié derrière, elle va être là et elle va pouvoir m'aider. Donc ça, c'est très, très, très précieux. Pendant notre année d'élaboration du projet... On a travaillé très finement les rôles et les fonctions de chaque groupe. Donc, quand on rentre dans un groupe, on sait exactement pourquoi on est là et ce qu'on va y faire. Ce qu'on va y faire, pas tout seul, ce qu'on va y faire avec les autres du groupe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, cette connaissance qu'on a de ce pourquoi on est là. Après, il y a de la créativité, on invente, mais la base est écrite et on peut s'y reporter sans arrêt. Et il y a ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est ce que je disais, la salariée n'est pas là pour faire à notre place.
Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que cette décision de passer en cercle décisionnaire et en mode sociocratique de gouvernance horizontale, c'est pas seulement pour l'organe de décision, c'est pour l'ensemble du fonctionnement des groupes, c'est-à-dire que chaque groupe fonctionne de la même manière, avec les mêmes outils, avec la même charte relationnelle. Et ça, c'est important parce que, je dirais, l'efficacité, elle est à tous les niveaux. Elle n'est pas seulement au niveau de nos rencontres une fois par mois, au niveau du cercle décisionnaire, elle est aussi au niveau des rencontres de chaque groupe. Et c'est toujours très agréable d'être à la fois efficace, entendu, écouté, et de pouvoir prendre des décisions, je dirais, de manière relativement rapide et éclairée. Voilà.
Moi, j'aimerais bien qu'on insiste un peu sur le positif, parce que là, on a parlé de choses un peu ardues. Et j'ai envie de dire tout le bien que ça peut faire de participer à un projet... qui tient compte des autres, un projet où on peut s'épanouir, un projet où on devient plus riche, soi et on enrichit les autres. Vraiment, c'est quelque chose de très agréable. On rit beaucoup, on fait des apéros pour accueillir les nouveaux. Voilà, on prend du bon temps et tout en prenant du bon temps, on est fiers de ce qu'on peut faire quand même. Voilà.
On arrive sur la fin de l'interview. Merci à vous. Vous voulez rajouter un petit mot pour conclure ou
Moi, j'ai conclu.
Je vais faire la petite conclusion. Je rappelle que la corderie du Diwa a des permanences tous les mercredis et samedis, jour de marché, de 10h à 13h pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la corderie, pour tous les accordeurs qui souhaitent venir discuter avec d'autres, prendre un café, si les conditions sanitaires le permettent. Et pour trouver des échanges, trouver des services à échanger, c'est aussi un bon moyen souvent. Et également, je peux lancer une invitation à tous les 700, 800, alors je ne sais pas où en est le nombre exact d'inscrits aujourd'hui.
Pas loin de 800.
Oui, on doit être pas loin de 800.
Tout le monde, chacun est cordialement invité à venir participer aux séries décisionnaires qui a lieu une fois par mois, actuellement un peu plutôt à distance avec les consignes sanitaires, ou dans la vraie vie sinon, pour pouvoir y participer, échanger et participer à toutes les décisions. C'est ouvert à tous. Il suffit d'envoyer un mail à Dorine pour être informé des dates. C'est bien ça ?
Oui. Oui.
Voilà, bah donc sur ce, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne fin de journée.
Merci à toi, Eric. Mmh. Au revoir.
Okay, the bird.